BFM Business présente Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct dans l'actualité ce soir. Bien sûr, ce chiffre absolument effrayant qui est sorti aujourd'hui, 60 milliards. Va falloir faire un effort de 60 milliards d'euros l'an prochain pour réduire un tout petit peu nos déficits. Sauf que 60 milliards, on n'a jamais fait ça. Est-ce qu'on est capable de le faire? On va voir ça, bien sûr, dans un instant avec Thomas Asportas. Les prix du pétrole en légère baisse ce soir. Le Brent un petit peu en dessous des 74$, alors que le monde attend avec... Beaucoup de craintes, bien sûr, les représailles israéliennes sur l'Iran. Jusqu'où est-on immunisé contre une forte hausse du prix du pétrole? On va parler de tout ça dans un instant dans le journal. Et puis avec nos experts qui reviennent, bien sûr, dans un quart d'heure sur BFM Business. Qui sera avec nous ce soir? Isabelle Bordry pour Rétinci. Emmanuel Botta pour le magazine Capital. Et puis l'homme des marchés, Wilfried Galland de Montpensier Finance. Bonne soirée, on est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr.
Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
Good Evening Business, le journal.
Donc c'est le chiffre qui est tombé aujourd'hui en France et qui fait très très mal, 60 milliards d'euros. Bonsoir Thomas Asportas, il va falloir faire 60 milliards d'euros d'efforts pour réduire un tout petit peu nos déficits l'an prochain. Qu'est-ce qu'on va devenir, Thomas?
Ah bah alors ça c'est pas moi qui vais m'en occuper, donc je sais pas, mais en tout cas on a tout intérêt à y arriver puisque c'est ça qui devrait nous ramener vers une petite baisse de déficit. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça monte en sans précédent, c'est ce que nous ont indiqué ce matin les nouveaux locataires de Bercy avec le directeur de cabinet de Michel Barnier. Et je vous dis c'est un effort sans précédent pour descendre une petite marche parce que c'est pour permettre au déficit qui serait de 6,1% cette année, c'est la cible fixée par le nouveau gouvernement, pour le rabaisser à 5. Donc pour faire une petite marche, un point de déficit en moins. On ferait 60 milliards d'efforts. 60 milliards d'efforts, en vérité, c'est 2 points de PIB d'efforts. Enfin, 60 milliards, c'est 2 points de PIB aujourd'hui. Oui. Pour passer d'un déficit qui passerait à 7% l'année prochaine si on ne faisait rien, à 5%, donc en 2025. Et ces 60 milliards, je vous corrigeais tout à l'heure, c'est que 60 milliards d'efforts, parce qu'on a 40 milliards d'économies et 20 milliards de hausses d'impôts. Sur les hausses d'impôts, Bercy n'en a pas dit plus. On nous renvoie à la présentation du budget la semaine prochaine, ce sera le 10 octobre, pour avoir tous les détails. On a quand même une petite info, il y aura l'année prochaine 1,5 milliard d'euros de hausse de taxes pour verdir l'économie, 1,5 milliard d'euros de taxes vertes en plus, avec un durcissement, par exemple, du malus sur les véhicules les plus polluants et sur la fiscalité des transports aussi les plus polluants.
Donc 20 milliards de hausse d'impôts et donc on disait en parallèle 40 milliards d'euros d'économie, c'est ça hein?
Exactement. Voilà. Et alors Bercy a indiqué là pour le coup assez précisément comment l'effort allait être réparti. Ce sera 20 milliards pour l'État, 15 milliards pour la Sécu, 5 milliards pour les collectivités. Dans les 20 milliards pour l'État, on va reprendre les 15 milliards qui viennent des lettres plafond de Gabriel Attal et à ça on rajoute 5 milliards supplémentaires. Sur ces 5 milliards, il y aura 1 milliard d'économies chez les opérateurs de l'État et nous dit-on une réduction du nombre de fonctionnaires. Et pour les 15 milliards d'euros d'économies de la Sécurité sociale, Bercy a annoncé une petite bombe puisque les retraites seront revalorisées l'année prochaine sur l'inflation, qui est estimé à Bercy à 1,8% l'an prochain, mais uniquement à partir du 1er juillet.
Ouais.
Autrement dit, de janvier à juin 2025, les pensions vont rester les mêmes que cette année. Donc il y a un gel sur la moitié de l'année 2025 sur les pensions de retraite. Et tout ça donc pour ne faire reculer le déficit que d'un point, et la dette va même continuer à augmenter, puisqu'elle était l'an dernier un peu en dessous de 111%. Cette année, on va passer à 113% et l'an prochain à 115%. Et le reflux de la dette n'interviendrait pas avant 2029, date à laquelle le nouveau gouvernement espère amener le déficit sous les 3%.
Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Puis alors, côté économie, il faut qu'on dise un mot des collectivités locales qui vont être mises à contribution. Et il se trouve que vous avez un rapport qui est sorti ce matin qui fait beaucoup jaser. C'est un rapport de la Cour des comptes qui le dit clairement. Nous, on a trouvé sans problème de quoi leur faire faire des milliards et des milliards d'euros d'économie. Caroline Morisseau.
La Cour des comptes suggère d'abord de tailler dans les effectifs des collectivités avec la suppression de 100 000 postes d'ici à 2030, ce qui permettrait de revenir au niveau de 2010 et de réaliser près de 4 milliards d'euros d'économies par an à partir de cette date. Les sages considèrent que les effectifs et donc les dépenses de personnel des collectivités, qui représentent un quart de leurs dépenses, ont trop augmenté. Et ce, alors qu'il n'y a pas eu de transfert de compétences de la part de l'État. Autre levier pour réduire les dépenses, faire baisser l'absentéisme. La Cour des comptes pointe en effet les trop nombreux arrêts de travail, dérogations ou congés accordés sur des fondements juridiques fragiles. Une mesure qui pourrait cette fois rapporter 1,3 milliard d'euros par an. Autre piste encore, mutualiser les achats entre collectivités et faire davantage jouer la concurrence entre fournisseurs, avec à la clé cette fois une économie potentielle de 5 milliards d'euros par an. De quoi faire hurler les élus locaux. L'association des maires de France dénonce la brutalité de ces propositions.
Caroline Morisseau, sinon dans l'actualité ce soir, ça se précise, hein, l'Europe devrait pouvoir bientôt appliquer des droits de douane sur les importations de véhicules électriques chinois. D'après plusieurs sources, la France, l'Italie, la Grèce et la Pologne devraient voter pour vendredi prochain, ce qui suffira au vu de leur poids en cumulé dans l'Union européenne pour entériner la fameuse mesure. Côté entreprise, maintenant chez Céline, maison de couture détenue par LVMH. Le directeur de la création artistique, Eddy Slimane, quitte ses fonctions. Il était en poste depuis quasiment 7 ans. Il sera remplacé par l'Américain Michael Ryder, qui connaît déjà la maison. Le nom de Eddy Slimane, qui circule entre autres par ailleurs pour prendre la direction artistique de la maison Chanel. Et puis le patron de la SNCF, qui a mis un petit coup de pression à l'État ce matin, à l'Assemblée. Il dit qu'il va falloir remettre de plus en plus de milliards pour l'entretien et la rénovation du réseau parce qu'il y a de plus en plus de concurrence et donc ça devient difficile pour la SNCF. Écoutez Jean-Pierre Farandou.
Comment ça marchait avant ? À la française. Donc une entreprise publique, la SNCF, fait des TGV. Et les TGV qui gagnent de l'argent permettent de financer ceux qui en perdent. Je vais citer personne pour embarrasser personne, mais c'est le cas. Et il reste assez d'argent malgré tout pour avancer. Donc tout le monde était content. La concurrence, elle arrive pas sur les déficitaires. Elle arrive sur les lignes qui gagnent de l'argent. Donc petit à petit, l'endroit où la SNCF gagne de l'argent, ça va se réduire. Et s'il faut qu'on continue à faire les lignes déficitaires, on a un problème. Voilà, j'ai pas la solution. On est au début du problème, il n'est pas encore très grave. On tient bon. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, s'il s'avérait que les opérateurs concurrents sur la grande vitesse prennent une part importante des lignes qui gagnent de l'argent, alors là, je pense qu'on a un problème d'équilibre.
Voilà, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, ce matin à l'Assemblée nationale, 19h09. On va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Comment ça s'est passé ce soir à la Bourse de Paris ?
Une hausse in extremis, hein. Vraiment, ça s'est dessiné en toute fin de séance parce qu'on a passé l'essentiel de la séance sur une légère baisse. Et puis, on a donné un dernier coup de rein là en fin de séance, plus 0,05%, 7577 points pour le CAC 40. Les volumes d'échanges n'étaient pas extraordinaires, 3,5 milliards d'euros d'actions négociées. À noter que la tech a bien surperformé l'ensemble du marché avec plus 0,74% pour l'Euronext Tech Leaders. Mais enfin, on a fait mieux que l'ensemble des indices européens, moins 0,25% pour le DAX à Francfort. On a un Eurostock 50 qui a fait un petit peu mieux, plus 0,18%. Enfin, globalement, on était bien orienté, alors qu'il y a toujours une prime de risque géopolitique très très nette. Vous regardez les principales hausses du CAC 40, Total, plus 2,24, on est à 60,64 €. On a Thales qui signe encore une belle performance dans le secteur de la défense, plus 0,9%, 147,50 €. On a Dassault Aviation qui était aussi en hausse sur le SBF 120, l'indice large. La tech, donc, qui était bien orientée, ST Microélectronique signe hausse d'1% à 26,29 €. Alors, vous parliez du pétrole.
Oui.
C'est vrai qu'on a quand même eu une correction assez nette ces dernières heures. On était, c'est vrai, proche des 75-76 $ hier. Là, on a quand même bien reculé du côté des 73-90. Donc, un petit moment de soulagement pour les marchés. Mais enfin, le risque géopolitique, il est toujours là et bien là. Pour preuve, quand même, encore une forte baisse d'Air France KLM qui signe la plus forte baisse du SBF 120, moins 5,5%, 7,95 €. Prime de risque géopolitique, hausse des prix du pétrole. Et puis, en plus, peut-être la perspective d'un renchérissement du coût des billets, oui, avec une surtaxe gouvernementale. Donc, tout ça fait du mal au titre qui signe deux jours de baisse assez nette. Plus forte baisse du CAC 40, c'est Edenred qui recule de 3% à 34,13 €. Puis à noter Renault, hein, qui est attaqué depuis deux jours alors que Stellantis se redresse un petit peu. Renault est dans le viseur, hein, moins 2,9% à 36,66 €, alors que bon, on est dans un environnement où tous les constructeurs abaissent leurs prévisions et on attend que Renault fasse un petit peu la même chose. Pour l'instant, ce n'est pas fait, mais le titre est clairement attaqué en bourse. Donc le CAC 40 sur une toute petite hausse, plus 0,05%, 7577 points. Et puis l'euro qui paie le prix d'un dollar fort en ce moment, valeur refuge, hein, le dollar bien sûr, 1,1057 pour l'euro.
Merci beaucoup Antoine, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. C'est la mi-séance bien sûr sur le marché américain. Le Dow Jones qui perd 0,1%, c'est calme, 42110 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté, plus 0,1%, c'est quasiment calme aussi, 17925 points. Tout ça à la mi-séance, 19h12, nos experts arrivent dans un instant, bien sûr. De quoi est-ce qu'on parle ce soir ? On parle de la situation au Moyen-Orient, les marchés pétroliers calmes pour l'instant, qui ne veulent pas le croire à une escalade entre Israël et l'Iran. Et puis ce chiffre absolument effrayant, donc un effort à 60 milliards d'euros l'an prochain en France pour réduire un tout petit peu finalement nos déficits publics. Tout ça entre autres, plus d'autres choses jusqu'à 20h bien sûr, à tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h16, ils sont là jusqu'à 20h, nos experts, pour décrypter bien sûr l'actualité économique encore pléthorique ce soir. Isabelle Bordré est avec nous. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Guillaume.
Co-fondatrice de Rétinci. Wilfried Galland est avec nous. Wilfried, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Directeur de la stratégie de Montpensier Finance. Emmanuel Botta qui vient pour sa première ce soir. Bonsoir Emmanuel, bienvenue.
Bonsoir.
Rédacteur en chef au magazine Capital. Alors on a beaucoup de choses ce soir encore, à commencer par les cours du pétrole. Bon, on va regarder ça si vous nous regardez à la télévision. Bon. Alors ça s'est un petit peu enflammé hier soir, on est passé de 70 à 75 dollars sur le Brent, on est ce soir quasiment à 74, un petit peu en dessous des 74. Le monde est dans l'attente, évidemment, la crainte des représailles israéliennes sur l'Iran, mais les marchés, on le voit, heure après heure, ne veulent toujours pas croire à ce stade à une nouvelle escalade, Wilfried. Hein, qu'est-ce qui justifie ce... Cet optimisme, c'est un bien grand mot, mais...
Bah déjà, en fait, il faut bien comprendre comment le marché du pétrole est structuré. Le marché du pétrole, il est aujourd'hui, compte tenu du ralentissement économique mondial, il est structurellement en excédent d'offres.
Ouais.
Et donc, il est très difficile d'imaginer, en tout cas de se positionner de façon forte, sauf à imaginer un scénario vraiment d'embrasement du détroit d'Ormuz, qui pour l'instant n'est pas le cas aujourd'hui. On a plutôt l'impression que...
Il n'a jamais été perturbé, hein, le détroit
voilà,
d'Ormuz.
Aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'on suit d'une certaine manière le manuel géopolitique que tout le monde a, des différentes représailles à droite et à gauche, en fait que personne n'est véritablement surpris. Et donc par rapport à ça, moi je regardais, hein, depuis un an, le baril de pétrole, il est en baisse en fonction des références, que ce soit européennes ou américaines, ouais, d'environ 20%. Et même encore depuis un mois, il est en baisse de 4%. Donc en fait, il se passe pas grand-chose, sauf effectivement des investisseurs qui jouaient à la baisse très fortement le pétrole et qui à un moment donné dit bon, je vais quand même arrêter mes paris à la baisse. Alors, on dit dans les salles de marché, on dit souvent il y a trois éléments qui expliquent le prix du pétrole: l'offre, la demande et la spéculation. Voilà. Et donc là, il y a effectivement des positions spéculatives qui sont probablement en train, au minimum, de revenir à peu près à un équilibre mesuré. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas de surprise. Bon. Le prix du pétrole, en tout cas, ne s'envole pas.
Tant qu'il n'y a pas de surprise, c'est ça, Emmanuel, finalement. Voilà.
Oui, c'est ça, effectivement. Oui. C'est vrai que la question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce qu'on va avoir un choc pétrolier de 1973 ? Mais en fait, ouais, la situation a totalement changé. Les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole, et de très loin. Aujourd'hui, on a effectivement ce que vous expliquiez très bien, c'est qu'on a aussi des réserves, des installations qui ne sont absolument pas utilisées à plein. Et par ailleurs, effectivement, on sent que chacun joue une partition au millimètre et n'est pas très envie, en réalité, d'avoir un embrasement total.
Isabelle.
Oui, et puis c'est vrai qu'on va attendre ce qui se passe au Moyen-Orient, mais l'Iran aujourd'hui, c'est le 8e producteur de pétrole. Et l'Iran
n'est
pas soutenu.
3-4 millions de barils de jour.
3 millions.
Voilà, et l'Iran n'est pas soutenu par l'ensemble des pays arabes. Et donc, effectivement, depuis 10 ans, les États-Unis ont démultiplié par 2 ou par 3 leur production de pétrole, ce qui rend le marché totalement différent d'il y a une quinzaine d'années.
Les circuits géographiques ont changé. Donc, il y a beaucoup plus d'approvisionnements locaux. Y compris dans des pays producteurs un peu plus marginaux en Amérique latine ou autre, plutôt que directement dans le détroit d'Ormuz.
Alors on va pousser un petit peu la réflexion, on est en visio comme on dit avec Thierry Bross, grand spécialiste des matières premières et de l'énergie. Bonsoir Thierry, merci d'être avec nous quelques minutes sur BFM Business. Je vais jouer les mouches du coche hier à tout ce que nous ont dit nos amis ici en plateau. Qu'est-ce qui pourrait faire s'envoler à un moment donné les marchés pétroliers pour vous, Thierry, finalement, ou pas?
Bonsoir. Oui, je crois que tout ce qui a été dit est exact. Ce qu'il faut regarder, c'est effectivement les volumes que produit l'Iran. C'est le 5e producteur mondial, mais surtout les volumes qu'exporte l'Iran, puisque dans l'équilibre offre-demande, c'est ça qui est important. Et l'Iran, finalement, depuis des années, sous sanctions américaines, elle n'exporte finalement pas beaucoup. Il devrait théoriquement exporter zéro, mais ils exportent de l'ordre de 2 millions de barils par jour. Et comme ça a été très bien évoqué sur votre plateau, il y a ce qu'on appelle de la production inemployée au sein de l'OPEP. Et cette production inemployée est de l'ordre de 4 millions de barils par jour.
Et vous pensez que les autres pays de l'OPEP seraient prêts à remettre au pot, pardon de le dire comme ça, finalement?
Oui, alors... Pourquoi, Thierry?
Parce qu'on peut se dire aussi que ça maintient les prix à un niveau assez satisfaisant pour ces pays. Pourquoi est-ce qu'ils remettraient au pot?
Alors, d'abord, ils n'ont pas remis au pot, ils vont pas remettre au pot tout de suite parce qu'eux préfèrent un prix de l'ordre de 80-90 $ par baril. Par contre, ils n'ont aucun intérêt à avoir un prix s'enflammer parce qu'au-delà de 100 $ par baril, il risquerait de se produire ce que nous avons vu en Europe en 2021 et 2022 dans le gaz, c'est-à-dire une transition énergétique accélérée. Mmh. Et ces pays-là ont besoin de la rente pétrolière sur le long terme. Et donc, je pense qu'ils viendraient à réapprovisionner les marchés si on venait à complètement perdre des exportations iraniennes, ce qui est le cas le plus terrible.
C'est le cas le plus extrême. Mais vous nous dites que dans ce cas extrême, les autres pays membres de l'OPEP, pour certains, seraient prêts à aller laisser le marché, le baril, chatouiller les 100 $ avant éventuellement de réagir. C'est ça que vous nous dites finalement.
Oui, je pense que l'ordre de grandeur qu'a toujours donné l'OPEP, c'est de 80 à 100 $ le baril. Et donc, effectivement, en dessous de 90, ils ne feront pas grand-chose. Ouais. Mais au-delà, oui, ils voudront éviter une crise pétrolière. Parce qu'une crise pétrolière, c'est effectivement des consommateurs qui sont pas d'accord et qui, après des années de procrastination, font des achats ou font des investissements pour sortir du pétrole, comme on l'a vu en Europe en 2021 et 2022 sur le gaz.
Ça semble rassurer les marchés. Et puis l'autre chose auquel apparemment les marchés se raccrochent, Thierry, c'est qu'il y a l'idée qu'il y a certains pays qui portent diplomatiquement, comme les États-Unis, comme la Russie ou comme la Chine, qui seraient là éventuellement pour retenir la main et freiner les velléités des uns et des autres. Ça, c'est l'argument des marchés. Est-ce que vous l'achetez, vous, cet argument, Thierry ?
Alors, moi, je n'achète pas tout à fait cet argument-là. J'achète plutôt l'argument où je pense que les Israéliens pourraient avoir des idées plus intelligentes qu'arrêter la production pétrolière iranienne. Vous pouvez, si vous le souhaitez, plutôt essayer de viser les raffineries parce qu'à ce moment-là, vous créez un manque de produits pétroliers en Iran, ce qui gêne et l'armée et la population.
Voilà pour l'état du marché ce soir. Merci beaucoup. Merci Thierry. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Thierry Brosse avec nous sur BFM Business. Bon, les marchés vont se raccrocher à ces espérances.
Oui, et puis sur le fait aussi que l'OPEP est incapable d'avoir de la discipline au sein de ses membres. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que les annonces de l'OPEP de restriction de production ne sont pas suivies des faits. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de l'OPEP des pays qui en fait produisent beaucoup plus.
Donc l'OPEP, c'est la zizanie l'OPEP.
En fait, ça veut dire que non seulement en dehors de l'OPEP, ce qui a été très bien expliqué, en dehors de l'OPEP, il y a des pays qui produisent de plus en plus, mais même à l'intérieur de l'OPEP, le Kazakhstan par exemple produit bien plus que ce qu'il doit produire. Donc en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, on a besoin de volume. C'est-à-dire qu'à force d'avoir des prix qui sont relativement faibles, parce que le pétrole, ne l'oublions pas, d'abord et avant tout, c'est un marché de demande. Oui. Si la demande n'est pas là, vous avez beau faire ce que vous voulez, à un moment donné, compte tenu du pétrole de schiste américain, vous serez en surcapacité. Et donc, vous prenez des parts de marché. C'est aussi simple que ça.
Mais la demande est là. Oui, Isabelle. Il y a une chose aussi qui est essentielle, c'est qu'il n'y a plus une si forte dépendance à un pays ou à un petit nombre de pays. Et ça, ça a vraiment changé.
La demande, elle est là. Patrick Pouyanné, qui venait de Journée Investisseur aujourd'hui à New York, l'a encore rappelé, la demande de GNL, elle est là.
Enfin, la demande de GNL, oui. Pas la demande de pétrole.
La demande de GNL.
Ah oui, c'est très différent. Le monde est beaucoup moins dépendant de pétrole qu'on était il y a 20 ans.
Emmanuel.
Oui c'est vrai qu'effectivement, tout ça est sur... ce qui change aussi énormément, c'est que là, on est sur un fonds de transition écologique accéléré. Enfin, on a, dans les voitures, on voit bien, même si ça peine encore à décoller, il y a quand même vraiment une accélération de l'électrification des véhicules. Et ce qu'expliquait l'expert, effectivement, c'est qu'aller trop haut sur le prix du pétrole, c'est accélérer ce mouvement. Et donc, c'est coupé plus rapidement que prévu la branche sur laquelle on est assis. Enfin, c'est assez basique, c'est ça les réflexions en cours.
Voilà, pour la situation Moyen-Orient, je résiste pour le plaisir de vous faire écouter Donald Trump qui a réagi à sa façon, qui a mis un petit peu d'huile sur le feu sur cette situation au Moyen-Orient, évidemment. Écoutez, tiens.
Le président des États-Unis devrait faire exploser ce pays en 1000 morceaux, car vous ne pouvez pas faire ça. Et le président devrait faire une déclaration à cet effet. Mais comme vous le savez, vous êtes en danger en ce moment. Vous êtes en danger maintenant à cause d'eux et de leur défiance envers moi. Nous allons donc évidemment être très impliqués au Moyen-Orient. Cela n'aurait jamais dû arriver. Nous avons signé les accords d'Abraham.
Voilà, tous les moyens sont bons, une semaine, un mois de l'élection présidentielle américaine, évidemment, pour faire un petit peu de buzz. Voilà.
Comme on dit, parfois ça hausse tout et c'est à ça qu'on les reconnaît.
Absolument, voilà donc pour cette situation du côté du pétrole, du côté du Moyen-Orient. Ça s'est envoyé, Wilfried, voilà.
Absolument.
La France, le budget 2025, donc ce chiffre absolument terrifiant dont nous avons eu connaissance à la mi-journée, il faudra faire un effort de 60 milliards d'euros l'an prochain, entre hausse des impôts et baisse des dépenses publiques, pour ramener quoi nos déficits à 5% du PIB à la fin 2025, 40 milliards d'euros d'économies sur la dépense publique, 20 milliards d'euros. Vous nous confirmez qu'on n'a jamais fait ça
On est d'accord, Emmanuel. Non,
c'est du jamais vu, mais de la même façon que la hauteur du déficit n'a jamais aussi du jamais vu. Enfin, on va atteindre peut-être dépasser les 6%, on parle de 6,1% du PIB hors crise. C'est du jamais vu. Donc là, on est effectivement. Et par ailleurs, je pense que les précédents gouvernements avaient été très, très optimistes, notamment sur les taux de croissance. Alors là, je ne sais pas si Barnier est dubitable sur une croissance modeste de 1,1%.
Mais c'est ce qu'il nous dit. Il est un peu en dessous du consensus. Ouais, voilà, il est un peu en dessous du consensus. Ouais.
Peut-être qu'il joue aussi la prudence.
Exactement.
Mais le fait est qu'effectivement, oui, la dette s'envole, le poids de la charge est devenu le deuxième budget derrière l'éducation.
Ouais. Pour combien de temps, on ne sait pas, oui, effectivement. Ouais.
Donc oui, il y a un effort gigantesque qui doit être fait. Maintenant, la question, c'est un peu comment, parce que ça reste assez nébuleux.
Ça vous paraît fumeux, là, ce qui a été annoncé? On a un petit détail quand même sur les dépenses, sur les hausses d'impôts. Là, on continue de se planquer sous le tapis, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais... Emmanuel Le Chip rappelait tout à l'heure, c'est l'équivalent de 2 points de PIB. La dernière fois qu'on a été capable de réduire nos déficits de 2 points de PIB, c'était entre 93 et 98. Ça a mis 5 ans pour le faire.
C'est aussi à peu près l'équivalent, quelques 5 milliards près, c'est l'équivalent de l'impôt sur le revenu, par exemple.
Oui,
c'est ce qu'on récolte, parce qu'en fait, c'est bien de mettre les dépenses par rapport aux revenus.
Non, mais vous y croyez à cet effort ou pas? Est-ce que vous croyez capable de... Ou alors on dit c'est ce qui va arriver au Parlement fin octobre, et puis on verra ce qui leur sortira fin décembre.
Je trouve que Barnier, hier, a quand même été très bon, parce qu'il a donné les chiffres, il a expliqué, il a été posé. Le fait qu'il donne les 51 milliards en expliquant effectivement que c'était le deuxième budget, c'est-à-dire la charge de la dette qui était à 51 milliards, en expliquant donc qu'il fallait 60 milliards d'économies et qu'il fallait les trouver, enfin 40 milliards d'économies dans les dépenses et 20 milliards de recettes supplémentaires. Il a été quand même extrêmement pédagogue du haut de son expérience et de sa sagesse. On avait l'impression que c'était un peu, je ne vais pas dire comme un chef d'entreprise, mais toute l'idée là, c'était de rassurer les marchés. Depuis 15 jours, 3 semaines, on a un prix de la dette qui est supérieur au Portugal et à l'Espagne.
C'est vrai.
Donc il y avait une démission hier de Barnier, avant qu'on rentre dans un débat qui risque d'être compliqué sur comment on fait, de rassurer déjà et d'essayer d'apaiser les investisseurs.
Vous l'avez trouvé rassurant, c'est quelque chose de très clivant. Vous me dites, j'ai trouvé ça rassurant.
Je l'ai trouvé serein et j'ai trouvé toute sa posture d'une grande sagesse face à certains dans l'hémicycle qui étaient particulièrement indisciplinés et irrespectueux par rapport, je trouve, à la démarche et au débat.
Vous êtes rassuré. Certains disent dans la méthode, il n'y a rien de nouveau. On fait là ce qu'on fait depuis 40 ans, donc les mêmes causes et les mêmes actions produiront les mêmes effets. C'est très clivant.
On ne peut pas attendre autre chose d'un discours de politique générale compte tenu de la configuration de l'Assemblée. C'est impossible.
Maintenant, cela dit, les 20 milliards de recettes qu'ils réclament, on les a fait, je crois que ça a été la même chose en 2011-2012. Ouais. Donc ce sont des choses qui ont déjà été faites. Et effectivement, 60 milliards, c'est un petit peu moins que l'impôt sur les sociétés et un petit peu moins que l'impôt sur les revenus, mais c'est aussi les niches fiscales sur lesquelles on peut quand même raboter. Ouais. Le plus compliqué va être les 40 milliards.
Oui, c'est bien sûr.
Les 40 milliards risquent en un an, c'est quelque chose.
Autant les 20 milliards, on les voit.
Les 20 milliards,
pour vous, c'est OK.
De toute façon, le truc qu'on sait extrêmement bien faire en France, c'est créer de nouveaux impôts.
Diminuer les dépenses.
Non, mais c'est le principe.
On pensait cette époque révolue, bah non, finalement.
Non, mais c'est le principe. Il y a le saut qui fuit. On sait qu'on devrait, on devrait arrêter la fuite, mais on préfère remettre de l'eau.
Les 20 milliards, c'est vraiment pas très compliqué.
Non, mais sur les 40 milliards.
C'est les 40 milliards.
Sur les 40 milliards d'économies, est-ce que vous dites, voilà, on dit 40 milliards, et puis on sait que ça va être effroyable de toute façon à l'Assemblée quand ça va arriver. Est-ce qu'on dit 40 milliards, allez, pour aller chercher 30, 25, je ne sais pas, à l'arrivée, étant donné qu'on sait ce que va être le débat budgétaire?
Je crois absolument pas. Enfin, d'ailleurs, même les quelques mesures qui ont été annoncées, c'était des mesures très symboliques. Alors, on va effectivement fusionner Business France et France.
Ça va pas changer la face du monde.
Le comité au plan et la stratégie, je crois.
On est tous d'accord, c'est très bien, mais là, on est quand même très loin des 60 milliards. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, effectivement, il l'a évoqué très vite, c'est qu'il a parlé de la productivité des fonctionnaires. Je suis assez étonné, d'ailleurs, que les fonctionnaires aujourd'hui soient pas vent debout, parce que il a quand même dit très clairement, il va falloir augmenter la productivité des fonctionnaires. Comment on formalise ça et comment il va le faire, je sais pas, mais il l'a dit de manière très claire.
Vous avez vu ce rapport de la Cour des comptes aujourd'hui qui est absolument sanguinaire, qui dit qu'il faut supprimer 120 000 postes dans les collectivités locales pour revenir au niveau de 2010. Trop d'absentéisme, pas assez de redéploiement. Voilà, l'Association des maires de France qui a hurlé, qui a dit qu'on ne peut pas s'en tenir à des
assentis. Oui, mais les plateaux de télévision bruissent régulièrement de nouvelles sur le fait qu'on n'arrive pas à, ne serait-ce qu'à aller à 35 heures dans plusieurs collectivités locales. Enfin, je pense que c'est une surprise pour personne. Donc maintenant, effectivement, il y a un sujet, on le sait globalement, de volume de travail en France, pas véritablement sur cet aspect-là, mais plus global.
Quoi. Et toutes les lois de décentralisation qui se sont empilées, en fait, depuis maintenant 20 ans, n'ont eu de cesse d'augmenter des strates de personnel dans le département, la commune, etc. Et c'est effectivement quelque chose de très compliqué
chiffres,
aujourd'hui.
Oui, parlant, c'est un Français sur cinq qui travaille dans la fonction publique, c'est 21%, je crois, effectivement, de la population française, quand en Allemagne, on doit être à 11%, en Angleterre, 16%.
Les chiffres qui étaient rappelés, le budget de l'éducation est le même qu'en Allemagne, et pourtant, les professeurs sont moins bien payés, donc ça veut dire que tout part dans le back-office, et c'est juste pas efficace. C'est cette notion d'efficacité qu'il a citée plusieurs fois, c'est-à-dire que les Français attendent une efficacité de l'impôt est assez nouvelle, je trouve, dans le discours politique, et je trouve extrêmement saine.
Bon, les collectivités locales, en tout cas, contribution de 5 à 7 milliards, mais ça aussi, c'est à détailler, bien sûr. 19h31 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h36, nos experts sont là encore pendant 20 minutes sans pub. Je le dis parce que c'est un argument de vente comme un autre.
Ah, c'est un très bon argument, Guillaume, bravo.
Quoi qu'on en dise en 2024. Isabelle Bordry.
Des intervenants.
Bien sûr, aussi. Et de les citer dans la foulée. Isabelle Bordry, Wilfried Galland et Emmanuel Botta avec nous. On disait donc 40 milliards d'euros d'économies dans la dépense publique. Il y en a qui ont des idées forcément pour faire plus. Écoutez Laurent Wauquiez qui a sa formule à lui toute prête, évidemment.
Considère qu'il est possible de faire 50 milliards d'euros d'économies en allant au-delà de ce qui est l'objectif affiché à ce stade par le gouvernement. Et donc pour nous, d'avoir un équilibrage qui permettrait de faire moins de hausses d'impôts et plus d'économies. En termes de plan d'économie, les trois grandes masses, elles sont d'une part sur réduire la lourdeur administrative, en gros 13 milliards d'euros, l'équilibre entre le social et l'assistanat, à peu près 12 milliards d'euros, et un meilleur contrôle de l'immigration, 7 milliards d'euros, auquel vient s'ajouter le principe de l'année blanche pour les dépenses publiques hors régalien.
Ouais, bah, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas dit grand-chose. Hein. Bah, ça vous donne un avant-goût de ce qui va se passer au Parlement quand même à partir
de... toute façon, l'histoire est écrite au Parlement. On sait que le projet de loi de finances va être détricoté, et à la fin, c'est le gouvernement qui va choisir via l'un 49-3, puisqu'il n'y a pas de majorité, il n'y aura pas de majorité pour voter le budget. Voilà, et après la question, c'est est-ce qu'il y aura une majorité suffisamment forte contre eux pour voter la censure ou pas. Enfin, on sait comment ça va se passer.
Ouais. Vous êtes d'accord, Emmanuel?
Oui, je suis d'accord. Ça semble évident. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que Barnier part d'un montant très haut, 60 milliards, en se disant ça va être tellement tricoté qu'effectivement, si j'arrive à avoir la moitié, je signe tout de suite.
Oui, mais enfin là, vous n'envoyez pas vos messages à Bruxelles ni aux investisseurs. Si vous dites je pars sur 60 milliards d'euros d'efforts et qu'il vous reste, je ne sais pas, à peine les deux tiers à la fin,
je pense que déjà, d'accord. Déjà, Bruxelles est relativement rassurée d'avoir quelqu'un qui connaisse à la tête du gouvernement. Si déjà il se monte sur une trajectoire plutôt positive.
Oui. Vous croyez que parce qu'il a été 10 ans commissaire européen, on va lui faire une ristourne, c'est ça que vous dites
quand on l'examine, on se désespère. Quand on le compare, on se rassure.
Non, je ne sais pas, mais Emmanuel, on part sur 60 pour gratter 50.
Il n'aura pas tellement le choix. Je pense que effectivement, quand même, Barnier est rassurant parce que ils savent que tôt il va quand même infléchir un peu la trajectoire. D'ailleurs, il a déjà repoussé de 2027 à 2029 les 3%. C'est un peu comme s'il avait déjà anticipé que de toute façon, il n'y arriverait pas à avoir ses 60 milliards. Enfin, on peut le dire comme ça en tout cas, mais...
Absolument.
Non, mais je trouve que la position de Wauquiez montre qu'à un moment donné, il va voter pour et qu'il va être même plutôt pushy pour essayer de trouver plus de dépenses. Je ne sais pas si ça sera accepté, mais je trouve que dans une dynamique où il faut faire des économies, là, pour le coup, on sait que les LR modérés vont suivre le gouvernement. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Maintenant, où est-ce qu'on va trouver 7 milliards avec la politique immigration, 12 milliards chez les collectivités locales?
Ça m'étonne beaucoup de Wauquiez
d'expliquer qu'il y a 12 milliards de gras ou d'économies à faire dans les collectivités locales. Maintenant, s'il le dit, il va peut-être les trouver, c'est peut-être une bonne chose à mettre dans le débat.
Je suis étonné que vous me disiez que vous avez été emballé, enfin je ne sais pas si c'est le terme, emballé par le discours de Michel Barnier, parce que enfin, vous qui êtes chef d'entreprise, qui évoluez dans la tech, évidemment, il a très peu parlé de tech hier, il n'a pas parlé d'innovation, est-ce qu'il a parlé d'intelligence artificielle? Oui, je crois qu'il a dû citer l'intelligence artificielle.
Alors effectivement, c'était pas... il a parlé de l'innovation, parce que je pense qu'il fallait parler de l'innovation comme un des pôles d'investissement qui ne serait pas oublié et sur lequel il n'y aurait pas d'économie, je crois que c'est comme ça qu'il l'a positionné dans son discours. Maintenant, je suis assez fan du choix de Clara Chappaz. Parce que c'est effectivement
secrétaire d'État,
secrétaire d'État qui vient d'être nommé, ouais. C'est la société civile. Je pense que dans des secteurs qui sont en permanente évolution, c'est quand même plus facile d'avoir quelqu'un qui est issu de la société civile et qui connaît les acteurs avec leurs forces et les faiblesses, etc., et les dynamiques. Et puis je trouve que c'est une très bonne chose. Qu'elle soit, enfin une très bonne chose en tous les cas, que ça soit, c'est tout à fait intéressant qu'elle soit sous la tutelle du ministère de l'Éducation supérieure ou de l'enseignement supérieur, je ne sais pas exactement quelle est libellée, parce que avant d'avoir effectivement des financements, il faut savoir conserver ses talents. En France, on a la chance d'avoir des écoles d'ingénieurs absolument excellentes, des mathématiciens de renom, des médailles Fields, énormément. Normal Sup, c'est quand même l'école qui a produit, je ne sais pas si c'est ce qu'on dit, mais en tous les cas, fait en sorte d'avoir le plus de médailles Fields au monde. Oui. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à les retenir. Donc si effectivement, cet alliage du ministère du numérique avec le ministère de l'enseignement supérieur permet de créer plus de liens avec des chaires et de retenir nos étudiants, je trouve ça tout à fait positif.
À condition qu'on lui lâche un peu la bride et qu'on la laisse bosser, voilà, qu'elle n'ait pas un ministère de tutelle trop prégnant. Enfin, ça, c'est la question. L'avenir, même immédiat, le dira. Tiens, une dernière petite chose concernant les hausses d'impôts qui vont être demandées aux entreprises. Écoutez, Antoine Armand, le ministre des Finances, de l'économie et des Finances, à qui on a demandé ce matin très précisément, quand vous dites temporaire exceptionnel, est-ce que c'est seulement pour un an? Pas plus. Écoutez ce qu'il répond.
Vous aurez l'occasion de voir dès la semaine prochaine, mais vous avez raison de poser cette question parce que
Qu'on connaît le temporaire.
En France, on connaît le temporaire pérennisé. Ouais. À nouveau, et j'aurai l'occasion de le dire à la fois aux entreprises, avec le ministre du Budget, aux particuliers, ce sera exceptionnel, temporaire. Ça ne sera pas une hausse pour plusieurs années sur l'ensemble
donc
des
c'est
postes
un an
de fiscalité.
Ou deux, c'est ça? On est à peu près dans les clous si on dit un an ou deux?
En tout cas, il est hors de question que ça dure plusieurs années de suite au même niveau pour tout le monde.
Ouais, il répond pas quand même.
C'est-à-dire que...
Il y a une provisoire qui dure, c'est pour
entre
ça.
Entre deux années consécutives, on peut avoir une pause. Quoi.
Oui, non, mais ça, c'est surtout qu'on ne sait pas combien de temps lui va rester.
En
donc
plus,
on ne sait pas quelle va être la décision de ses successeurs. Voilà, donc c'est effectivement toujours difficile.
Vous méfiez du provisoire qui dure, vous, Emmanuel?
En tout cas, déjà, effectivement, quand il commence à essayer de détailler sa mesure et qu'on comprend de moins en moins où il va, et je me dis que c'est assez mal parti. Mais oui, enfin, là, ça semble assez évident qu'effectivement, l'effort aux entreprises, il va être, notamment aux grandes entreprises, il va être conséquent, et je ne pense pas que ça sera juste pour un an, parce qu'effectivement, si on veut que ça rapporte un peu dans les caisses...
On commence à entendre dire que ça pourrait être 2-3 ans. Quoi.
Oui, mais
donc, votre temporaire, la moyenne...
Mais ce qui est extrêmement paradoxal, c'est qu'en fait, on se focalise sur les grandes entreprises et sur leurs bénéfices. Mais les bénéfices de beaucoup de grandes entreprises sont mondiaux. Donc en fait, on l'a vu d'ailleurs dans les là c'est la casquette d'homme de marché qui parle, mais on l'a vu dans les marchés. Ceux qui ont été attaqués les entreprises qui ont été attaquées dans les marchés suite aux déclarations sont celles dont l'essentiel de leur activité est en France.
Oui.
Les banques, les grandes compagnies de services publics, c'est ça effectivement. Ceux qui effectivement ont 80-90% de leur activité à l'étranger, en fait, ne pourront mécaniquement pas être touchés.
Et d'ailleurs,
par cette imposition.
Patrick Pouyanné, qui est à New York, qui tenait sa journée investisseur aujourd'hui à New York, a dit tout à l'heure, entre autres déclarations, je ne suis pas très inquiet, voilà, par exemple.
Il doit faire 15% de son profit en France.
Oui, ça, c'est un côté démagogique, effectivement.
Exactement. Mais il l'a dit, en tout cas, mais il n'est pas inquiet, voilà, c'est l'essentiel. Un dernier petit mot pour vous dire que, alors regardez la télévision si vous nous regardez, le calendrier des agences de notation, parce que mine de rien, ça arrive. Fitch Rating qui va se repositionner sur notre note ou pas, on verra, mais c'est le 11 octobre, c'est dans 10 jours, hein. C'est dans 10 jours que Fitch va parler, Moody's le 25 octobre, et puis Standard Pourse le 29 novembre prochain, ça nous paraît des vendredis. S'annonce des vendredis.
C'est intéressant, mais après, il faut voir ceux qui avaient déjà mis sous surveillance négative ou pas. Vous pouvez, parce que quand vous ne mettez pas sous surveillance négative, vous ne pouvez pas dégrader tout de suite.
On verra. Ça commence avec Fitch, premier feu d'artifice dans une dizaine de jours. 19h44, on va parler immobilier. J'accueille Marie-Cœur de Roy qui va nous rejoindre pour notre plus grand bonheur sur le plateau. Bonsoir Marie.
J'attends de m'installer pour dire bonsoir.
Écoutez, ouvrez le micro et voilà.
Voilà, c'est pas mal.
Il faut être à l'aise, Marie.
Salut,
elle est à l'aise.
Marie.
On est parlé logement parce que Michel Barnier, alors on le disait hier soir, c'est peut-être là-dessus qu'il nous a paru le plus prolixe. Qu'est-ce qu'il a promis ?
Oh, beaucoup de choses.
Ouais, d'étendre le PTZ à tout le territoire, d'adapter le calendrier du fameux DPE, diagnostic de performance énergétique, et il a parlé de mesures pour relancer l'accession à la propriété et l'investissement locatif. Ça, c'était hier après-midi.
Les ZAN aussi, les zéro artificiels.
Ouais. Ouais, il va revenir sur le ZAN. Ouais.
24 heures après, qu'est-ce qui reste de tout ça, Marie ?
Bah, pour l'instant, il reste 2-3 trucs, hein, mais surtout, le principal message, c'est qu'on a un Premier ministre qui nous a dit qu'il n'était pas en cohabitation sur le logement. Il fait tout ce que n'a pas fait Emmanuel Macron. Il détricote complètement la politique menée sur le sujet depuis 2017. Alors, les choses commencent à se dessiner maintenant. On sait très bien que ça va être un jeu entre les parlementaires, mais qu'il y a quand même une forme de consensus autour de l'état de la crise du logement. Ça fait des années qu'on le lit, maintenant c'est bon. Tout le monde l'a constaté. Alors, sur le prêt à taux zéro, première bonne nouvelle, effectivement, c'est donc l'étendre à tout le territoire, puisque je vous rappelle que depuis cette année 2024, pour l'achat d'un logement neuf, c'est que les appartements et plus les maisons, et que dans les zones tendues. Donc, ouais. Ce qu'on croit comprendre à ce stade, c'est qu'on va l'étendre donc à tout le territoire pour les achats de logements neufs, appartements neufs. Pour les maisons, il y a une réintégration partielle. Attention, hein, le diable s'étage dans les détails.
Attention, subtilité.
C'est-à-dire, tous les constructeurs des maisons étaient là, youpi. Et en fait, finalement, il s'agirait finalement de réintégrer ce qu'on appelle la maison individuelle groupée. Qu'est-ce la maison individuelle
groupée ? C'est les lotissements,
groupée.
Quoi.
Gros. En gros.
Oui. Bah oui,
mais il n'y a aucune poésie, là.
Mais ça, et donc, le problème, c'est que c'est moins 10% de la production de la construction de maisons neuves en France. Donc, il va falloir regarder ce qu'on va véritablement faire sur le prêt à taux zéro. Mais globalement, c'est une bonne nouvelle. Je rappelle que Nicolas Sarkozy avait fait le prêt à taux zéro le plus puissant qu'il soit en 2011. Il y avait eu 350 000 PTZ distribués. On est à environ 48 000 PTZ l'an dernier. Vous imaginez le chemin à parcourir. Bref, PTZ, c'est ça. Sur l'investissement locatif, à ceux qui espéraient une prolongation du PINEL, c'est pas possible. PINEL, c'est un gros mot. Voilà ce qu'on nous a dit. Hein. PINEL, c'est un gros mot à Bercy, ça ne passe pas. En revanche, il y a une histoire. Et puis, il y a une histoire d'argent aussi, oui. Évidemment. Enfin bon, c'est d'un mot quand même, hein. Le logement, ça rapporte beaucoup plus que ça coûte.
Je sais.
40 milliards de dépenses, 95 milliards de recettes, j'insiste lourdement, mais quand même. Donc, pas de Pinel, ne rêvez pas. En revanche, on va construire le fameux statut du bailleur privé, mais ça va prendre du temps, et là, on a besoin de mesures urgentes. C'est la Fédération des promoteurs immobiliers qui aurait été entendue, selon nos informations, avec une mesure d'exonération sur les droits de succession pour l'achat d'un logement neuf, que ce soit pour les propriétaires occupants ou les propriétaires investisseurs, les fameux DSU de la disparition du Pinel, une fenêtre de tir fiscale de 18 mois seulement. Et puis en plus, l'avantage, c'est que du coup, ça aura un manque à gagner que dans le temps, puisque c'est la succession à la donation. Donc en fait, ça va rapporter en TVA.
C'est la durée de vie anticipée du gouvernement, 18 mois.
18 mois.
Je ne sais pas le dire.
C'était fait dans les années 90.
Exactement. Il s'inspire d'Edouard Balladur, effectivement, 93. Exactement. Et ça avait pas mal fonctionné, même si, alors, c'est ce que nous disent évidemment les professionnels du secteur. Mais quel dommage, on n'a pas de retour sur expérience. Donc voilà, on verra bien. Mais effectivement, ça a un sens. Alors simplement, il y en a qui me disent, à l'époque, il y avait un problème de stock de logements neufs, et l'idée c'était de déstocker. La crise était complètement différente dans les années 80.
Là, il n'y a pas de logements neufs, il n'y a pas de suffisamment de logements neufs.
Là, il va falloir faire plein de choses quand même.
Il va falloir déjà construire les logements.
Il va falloir qu'il y ait du stock, mais bon.
D'accord. Et sur le zéro artificialisation.
Sur le zéro artificialisation net, oui, c'est aussi une mesure qui peut aider. Maintenant, le problème, c'est
que ça libérait beaucoup de foncier.
Non, mais le problème, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup d'élus locaux qui avaient anticipé le ZAN et qui, par peur, ne construisaient plus du tout. Donc là, on va lever un tout petit peu aussi.
Ça prend du temps.
Les verrous, ça prend du temps, voilà. Mais le fait est que pour moi, je vous le dis d'un mot quand même, la décision la plus forte, même si c'est important le prêt à taux zéro, des soutiens, machin, etc. Ce qui se passe sur le DPE, c'est quand même pas rien. Encore une fois, pendant les élections législatives, on a une élection qui aurait pu se faire là-dessus. C'est très populiste comme mesure. Le dis comme ça, mais supprimer le calendrier, on savait qu'il n'était pas tenable. Mais il y avait un affichage. Là, vous avez quand même une filière qui s'est créée de toutes pièces sur ce calendrier de rénovation de passoires. Là, vous le savez maintenant, à partir du 1er janvier 2025, les logements G ne seront plus interdits à la location. Tous ceux qui ont fait les travaux avant et qui ont pensé valoriser leur patrimoine. En fait, finalement, non, parce que ça a une incidence sur les prix.
Ils l'ont valorisé un peu, quand même.
Ils l'ont valorisé un peu, mais l'écart, Wilfried, l'écart entre les passoires et les logements performants qui s'était creusé à mesure que les échéances approchaient, c'est terminé. Et cette filière, ces dizaines de milliers d'emplois créés au-dessus, je pense aux diagnostiqueurs qu'on a beaucoup critiqués, mais il n'y a pas que, les MaPrimeRénov et tous ceux, mais mon accompagnateur Rénov, etc., ça peut avoir une incidence quand même considérable sur tout ce marché-là.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça renverse un peu la table, un tant soit peu
Bah oui, quand même, il s'attaque Manuel. Effectivement à deux totems de la loi résilience et climat 2024, effectivement, que ce soit effectivement le calendrier sur les passoires thermiques et la loi sur le zéro artificialisation nette, qui étaient quand même effectivement des totems auxquels différents gouvernements n'ont jamais voulu s'attaquer. Est-ce que ça réglera la question? Je suis pas sûr. Moi, je suis étonné un peu, effectivement, qu'il n'y ait pas l'amorce d'un nouveau Pinel, parce qu'on peut aussi changer le nom et garder le...
Alors, a priori, dans les tuyaux, il y a quand même l'idée, mais bon, ça fait des années, moi, ça fait 10 ans que je couvre le secteur et ça fait 10 ans qu'on m'en parle, mais de la création du véritable statut du bailleur privé, mais qui conserverait le neuf comme l'ancien, qui serait une forme de statut plus pérenne, qui serait plus, ce qu'ils nous disent, une niche fiscale, mais un dispositif pérenne pour soutenir l'investissement locatif et reconnaître le rôle finalement aussi social du bailleur privé.
Bon, ça permettra peut-être d'ajuster en particulier la fameuse statut de loueur en meublé professionnel.
Les LMNP qui sont dans les tuyaux.
Parce qu'en fait, il va falloir trouver un équilibre financier et probablement c'est via ça qu'on va trouver l'équilibre financier dans les mesures.
Isabelle. Il y a un point très important qu'il a dit aussi, je trouve, dans son discours hier, c'est le fait de la mobilité sociale dans les logements sociaux. Et ça, c'est un sujet dont on avait beaucoup parlé sur ces plateau, un logement social, la vie est une ineptie.
Oui, mais sauf que ce n'est pas vrai. Techniquement, ce n'est pas vrai. Je vais mettre très en colère.
Et donc le fait aujourd'hui, j'espère qu'il va donner les moyens aux bailleurs sociaux de faire en sorte de vérifier le patrimoine et les évolutions de revenus des différents locataires.
C'est déjà fait. C'est fait tous les ans.
D'essentiel.
Mais c'est fait tous les ans. Et moi, je suis désolée, sur le parc social, la problématique, ce n'est pas de virer ceux qui sont déjà présents, c'est d'agrandir le gâteau.
C'est de faire évoluer.
Oui, mais sauf que là, en l'occurrence, c'est là où vous avez raison. Il faut leur donner des moyens. Il y a une mesure, à chaque fois je reviens et tout le monde me dit arrête de parler de cette mesure, mais quand même on va en parler parce que tout le monde pense que c'est trop compliqué pour que les gens la comprennent. La RLS, la réduction du loyer de solidarité. Depuis 2018, le gouvernement a fait quoi? Il a dit je vais baisser les APL des locataires du parc social. C'est dégueulasse. Donc qu'est-ce que je fais? En échange, je demande aux bailleurs sociaux de baisser d'autant les loyers qu'ils perçoivent. Vous savez ce que c'est? À BFM Business, on sait ce que c'est. C'est une taxe sur le chiffre d'affaires et pas le résultat. Le chiffre d'affaires, 1,2 milliard d'euros chaque année, voilà ce que ça coûte aux bailleurs sociaux. En rythme de croisière, normalement, les logements sociaux, ils produisent environ 120 000 logements par an. On est à 80 000. C'est un drame. Ils n'ont pas les moyens de construire, ils n'ont pas les moyens de rénover. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien qu'on dise, c'est pas grave s'il n'y a pas de place supplémentaire, on n'a qu'à virer ceux qui y sont déjà. Non, la solution, c'est aussi de construire davantage et on voit à quel point toute la filière de la construction est à l'arrêt aujourd'hui.
Il y a eu cette velléité, en tout cas récemment, de mieux contrôler la conformité.
Mais en réalité, voilà. Si vous regardez, les contrôles, ils sont faits. Vous avez d'ores et déjà des surloyers. Bon. Pour moi, c'est de l'affichage.
Après, il y a un sujet, c'est le pouvoir du maire sur le permis de construire. Il est seul avec ce pouvoir aujourd'hui. Et à 2 ans de fin de mandature,
et à 2 ans
c'est extrêmement difficile. Ça, c'est un sujet que je prépare. Il se targue même d'arrêter de construire. Vous avez des maires qui se targuent même d'arrêter.
Et donc, parce que électoralement,
c'est extrêmement compliqué politiquement.
On est d'accord. Oui.
Et puis, une chose aussi dont on parle assez rarement, c'est que les organismes HLM ont aussi une vocation à ne pas être déficitaires. Donc, fait, on ne peut pas virer les gens qui payent le mieux, les plus régulièrement.
Il y a une question d'équilibre financier.
Voilà, dont on parle assez rarement.
Voilà pour cette parenthèse logement, et quelle parenthèse. Merci Marie, merci de passer nous voir. À très vite, avec plaisir. Marie Cœur de Roy avec nous sur BFM Business. 19h52, c'est l'extra time pour terminer. Vos coups de gueule ou coups de cœur sur 30 secondes. Pour les tenir, les 30 secondes, c'est pas évident parce que quand le cœur parle, évidemment, c'est plus compliqué. Isabelle, voulez-vous commencer? 30 secondes.
Eh bien, pourquoi pas? Moi, j'ai été. Alors, c'est un coup de gueule, en fait. Et j'ai, comme vous l'avez vu, j'ai été assez impressionnée par le discours hier du Premier ministre Barnier qui finalement fait du. En même temps, c'est peut-être le « en même temps » que Macron n'avait jamais réussi à faire. Et en face de lui, il avait une partie de l'hémicycle qui n'était pas dans l'écoute, pas dans le respect. On y était habitué depuis certaines années. Mais là, je trouve que c'était d'autant plus flagrant. Et il y a eu un moment où il a expliqué de manière assez claire qu'il fallait faire attention parce que la République était fragile.
Oui.
Et à ce moment-là, qu'il fallait prendre soin de la République. Et à ce moment-là, il n'y a qu'une partie de l'hémicycle qui a applaudi. Et je trouve ça extrêmement grave. Et qu'il faut le souligner.
Le coup de gueule ce soir d'Isabelle Bordry. Wilfried Galland, 30 secondes, mon cher Wilfried.
Et moi, non pas ma surprise, mais ma déception, ça a été que lorsque on voit par exemple le débat des vice-présidents américains, on s'aperçoit que l'Europe, y compris l'Ukraine, n'est absolument pas présent. C'est-à-dire qu'en fait, on a disparu des débats de notre premier soutien militaire et aussi économique. Et en fait, on n'existe plus sur le plan politique américain. On voit que ce que Barack Obama disait, c'est-à-dire l'avenir du monde, se jouera entre New Delhi et Tokyo, est véritablement
en train de se passer. Est en train de se résister le débat des colistiers la nuit dernière aux États-Unis, bien sûr. Emmanuel Botta, 30 secondes.
Alors moi, pour équilibrer, je vais être sur un coup de cœur, un petit sur la création d'un livret d'épargne dédié à l'industrie. Alors, je sais que c'est pas une première, effectivement, mais je pense que c'est une vraie bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on nous rabat les oreilles, si je puis dire, des startups, etc. Mais on oublie que l'industrie, c'est quand même aujourd'hui encore 12% des emplois salariés, que ça crée des vrais écosystèmes dans les territoires, que ça ancre les familles, donc des enfants, donc des écoles, et aussi du coup ça attire des médecins, ça permet aussi de lutter contre les extrêmes, ça on l'a vu aussi, en tout cas on le voit quand les usines ferment, et enfin ça permet aussi de renforcer l'autonomie stratégique, et ça on l'a vu un peu cruellement pendant la crise du Covid.
Drainer l'épargne des Français toujours vers l'économie,
ce n'est pas nouveau, mais si on y arrive, voilà.
Un nouveau livret de développement industriel.
Eh ben, on va le tenter à nouveau. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Isabelle Bordry, Wilfried Galland, Emmanuel Botta. Merci, à très vite, avec plaisir, pour nouvelles aventures. 19h55, je vous donne les deux grands titres de l'actualité. D'abord, cet effort sans précédent qui va être demandé dans le cadre du PLF 2025, 60 milliards d'euros d'efforts. Tout ça pour ramener les déficits juste à 5% du PIB à la fin de l'année prochaine. Projet qui sera présenté au Conseil des ministres jeudi prochain. Puis les prix du pétrole en légère baisse ce soir. Le baril de Brent un petit peu en dessous des 74 $ dans l'attente, bien sûr, de la riposte israélienne sur l'Iran. 19h55, Tech & Co. François Sorel et toute l'équipe dans un instant. Et nous, on se retrouve bien sûr demain soir, 18h, pour nouvelles aventures. Bonne soirée, à demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.